Lorsque, dans un malheureux concours de circonstances, le robinet de la cuisine de Paul Solveig se met à fuir et que sa femme aussi, ce Parisien en crise, décide lui aussi de prendre la tangente. Direction la République tchèque, plus précisément la Moravie, où il est attiré comme un aimant à la faveur de la découverte de la photographie mystérieuse d'une femme disparue. Cette enquête, doublée d'une quête du personnage principal, est au cœur du roman de l'écrivain français Jérôme Bonnetto, Pragois d'adoption. Le silence des carpes, publié aux éditions Inculte, est un livre à découvrir sur Radio Prague International et dans toutes les bonnes librairies. Jérôme Bonnetto, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, vous vivez à Prague depuis une douzaine d'années, vous enseignez le français. Vous avez sorti au début de cette année votre quatrième roman, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Le silence des carpes. Alors, c'est un ouvrage qui est également votre second roman publié aux éditions Inculte. Alors, ce livre nous intéresse tout particulièrement à Radio Prague International parce qu'il se déroule ici, en République tchèque, plus particulièrement en Moravie. On y reviendra, évidemment. Peut-être pour commencer, avant de parler du récit lui-même, j'aurais aimé vous demander, quand un écrivain vit dans un autre pays que le sien, est-ce que c'est un passage obligé que d'écrire sur son pays d'adoption ? Parce que l'altérité, les questionnements, les remises en question que suscite l'exil, dans le pire des cas, l'expatriation, dans le meilleur des cas, peuvent être une source d'inspiration féconde. Alors, est-ce que c'est automatique ? Et est-ce que vous avez eu soudain ce besoin d'écrire sur ce pays d'adoption ?
Je ne crois pas que ce soit automatique, mais bon, le besoin se fait sentir au fur et à mesure. Plus on reste dans un pays, plus on est imprégné par ce pays. Et fatalement, comme on écrit avec sa propre matière, ça se diffuse d'une manière ou d'une autre. Alors, ça peut se diffuser de différentes manières. On n'est pas obligé d'écrire une histoire qui se passerait forcément dans ce pays-là. Mais là, j'avais envie de le faire. J'avais envie de le faire pour notamment rendre aussi à ce pays ce qu'il m'a donné, puisque sa culture, la vie au quotidien, les images que je vois, l'architecture, tout ça est en moi. Et c'était une manière pour moi, voilà, de souligner cela.
Un hommage, donc. Une forme d'hommage.
Oui, une forme d'hommage. Une forme d'hommage. Alors, je le dis, l'hommage, il est à la République tchèque parce que j'y suis très attaché. Je pense qu'il y a, au-delà de cet hommage à la République tchèque, un hommage à la culture. Quel que soit le pays dans lequel on évolue, cette culture s'infuse en nous. Et on ne peut pas y échapper, quoi. Il faut, lorsque l'on écrit, on passe par cela. Et donc moi, forcément, c'est la République tchèque. Je suis là depuis 12 ans et ce pays est inscrit en moi maintenant.
Passons un petit peu au récit en lui-même. Donc, Le silence des carpes, c'est à la fois une quête, mais aussi une enquête. Votre personnage principal, Paul Solveig, qui s'embarque dans une enquête, en fait, en Moravie. Donc ça, c'est pour le côté un petit peu, tout petit peu policier. C'est pas vraiment ça, mais quand même, vous allez pouvoir nous en parler. Mais il entreprend aussi, peut-être sans s'en rendre compte, une quête de soi-même.
Oui, il part en étant un personnage en crise, hein. Sa femme le quitte, il est un petit peu en rupture avec son travail, il trouve plus tellement de sens à Paris, et lorsqu'il trouve cette photo qui a laissé échapper un ouvrier, il est complètement fasciné par cette photo, il voit là une raison absurde en fait de quitter la vie qu'il a. Il décide de partir à la recherche de cette femme qui a été avalée derrière le mur pendant la normalisation. Il ne sait pas du tout ce qu'il cherche précisément. Et il va le découvrir petit à petit, au fur et à mesure de sa quête, qui est une quête de soi, et de son enquête, qui est l'enquête pour retrouver cette femme. Effectivement, le polar est plus ici comme un...
Comme un prétexte.
Oui, comme un prétexte à plus quelque chose autour de la quête de soi. C'est plus un roman initiatique qu'un polar en soi. Mais... je ne crois pas qu'il faille complètement laisser ce moteur de l'intrigue, qui me paraît être important quand même, parce que il permet également d'intégrer la réflexion sur l'histoire. Hein. Je ne peux pas en dire trop, bien sûr, mais la disparition de cette femme est peut-être liée à un événement historique, et donc je voulais également en parler, parce que c'est quelque chose qui me paraît important aujourd'hui. Il y a un héritage. un héritage de cette période, et c'est pas toujours facile de vivre avec cet héritage quand on y est participé, ou que l'on soit les enfants de cette génération.
De cette génération, donc, de la normalisation.
De la normalisation.
D'après l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes soviétiques.
Voilà, exactement. La génération suivante m'intéresse plus particulièrement. Comment on vit avec cet héritage-là quand on n'a pas fait la révolution de 89, lorsqu'on est les enfants de ceux qui ont fait la révolution ? Qu'est-ce qu'il en reste ? Et donc, mon personnage, Paul Solveig, va rencontrer justement ces... deux personnages qui vont représenter cette génération-là. Puis il va rencontrer un troisième personnage qui, lui, fait plutôt partie de la génération précédente et donc qui
celle
a vécu...
Celle de l'exil.
Celle de l'exil, celle qui a vécu ou qui a échappé par l'exil à la normalisation. Et ça m'intéressait d'aborder cette question-là par le biais du polar, bien sûr.
Alors, le roman s'articule sur deux récits. Hein. On ne va pas tout déflorer, évidemment, mais il faut quand même en parler. C'est des récits qui vont se compléter, peut-être converger. Hein. D'un côté, il y a l'histoire donc, de Paul Solveig. Hein. De l'autre, celle de deux pêcheurs moraves qui découvrent un lac mystérieux. C'est là où on en vient aux fameuses carpes. J'avais envie de dire, il y a presque quelque chose de l'ordre du merveilleux, en fait, dans ce récit parallèle. Et je trouve que c'est presque en accord avec l'appétence de la culture tchèque pour le conte. Est-ce que c'est quelque chose... qui est venu un peu naturellement par finalement cette culture du conte que évidemment vous avez dû apprendre à connaître.
Oui, c'est évident, j'avais envie de mettre ça dedans. Le conte est ici quelque chose de tout à fait prégnant. C'est intéressant de voir par exemple à la télévision près de Noël la multiplication des contes, quelque chose qui est quasiment impossible à imaginer à la télévision française, de voir des contes qui ont été filmés dans les années 80 et qui paraissent presque kitsch, hein, on va dire.
Le seul conte français auquel ça me fait penser, c'est Jacques Demy et Podane, et à peu près c'est le seul représentant. Hein.
C'est vrai. C'est vrai. Il y a quelque chose, effectivement, chez Jacques Demy aussi, d'un mélange de cruauté et de douceur. En tout cas, le conte, je crois qu'il s'explique par le paysage. Quand on se balade dans le paysage tchèque, dans les forêts, autour des lacs, autour des étangs, des marais, on comprend tout de suite pourquoi le personnage du Vodnik existe. C'est absolument évident. Donc, la découverte du personnage, la découverte de la République tchèque, et notamment de la Moravie, c'est aussi la découverte du paysage et de quelque chose qui est de l'ordre de l'âme profonde du pays, si je peux me permettre d'employer ce terme-là. Il y a par ailleurs des auteurs qui me sont chers, je pense à Ota Pavel ou à Rabal aussi, hein, intègre le merveilleux dans ses textes, mais Ota Pavel également, donc c'était aussi également une manière de lui rendre hommage. Je crois que je suis parti avec cette idée-là, on va mettre deux personnages qui s'appellent Ota Pavel et qui pêchent parce que voilà, c'est dans l'un de ses textes, c'est quelque chose qui, c'est une activité qui est centrale. Après, je me suis servi de ce premier fil pour aussi dérouler, on va dire, des éléments de culture tchèque. On retrouve d'autres auteurs, d'autres personnages de la vie tchèque. Bon, il y a Bohumil Hrabal, bien sûr, il y a Milan Kundera, il y a Miroslav Tichý,
le photographe.
J'ai essayé de me servir de ces deux catalyseurs pour diffuser petit à petit les éléments tchèques qui m'intéressent et qui définissent ce que je vous ai dit tout à l'heure, une partie aujourd'hui de mon identité.
Alors c'est intéressant justement sur ces références hein, parce que j'ai trouvé ça intéressant parce que vous avez quand même réussi à déjouer les pièges d'un terrain miné, parce que glisser des références dans un roman, ça peut parfois être un écueil, hein. On peut tomber dans le folklore, ça peut être plaqué de manière un peu artificielle pour faire un peu couleur locale, et finalement en fait vous truffez votre récit de référence donc littéraire, cinématographique, donc ces noms finalement de personnages secondaires, on va dire, mais qui ont des noms de grands écrivains tchèques. Et on a plutôt l'impression que vous avez choisi de jouer un jeu malicieux, en fait, avec le lecteur averti. Et puis pour le lecteur non averti, finalement, bah, ça passe bien. C'était aussi une idée comme ça de jouer justement avec la personne à l'autre bout.
Oui, j'avais envie de jouer effectivement, parce que la culture tchèque prête au jeu. Et le name dropping, c'est facile en fait de jeter des noms dans un texte. C'est pas tellement ça ce qui me paraissait le plus intéressant. Ce qui me paraissait le plus intéressant, c'était comment faire infuser les œuvres que j'aime dans mon écriture, parce que j'ai quand même un personnage qui raconte sa vie à la première personne, hein, comment faire infuser cela. Et donc je me suis amusé à faire effectivement des clins d'œil, mais pas que ça. le ton employé par la narration, et également un hommage à l'humour tchèque, à l'ironie tchèque, à un regard qui est toujours un peu aigre-doux comme ça.
Un peu décalé aussi.
Un peu décalé, bien sûr. C'est une certaine culture tchèque, c'est celle que moi j'apprécie plus particulièrement. Il y a bien sûr de tout. Hein. Ces personnages qui ont le même nom, par exemple, que Bohumil Hrabal, lorsqu'il est décrit, il n'est pas décrit comme Bohumil Hrabal exactement.
Tout à fait.
Il a une moustache, par exemple, bon, voilà, ce que Hrabal n'a pas. Mais ça met un petit peu la puce à l'oreille pour trouver du Hrabal ailleurs.
Alors ça, c'est le côté littéraire, mais le cinéma, évidemment, et la nouvelle vague tchécoslovaque est aussi très présente. Et en effet, par exemple, dans les scènes, par exemple, bon, pour revenir à ces scènes avec les pêcheurs et leurs comparses à l'auberge locale, on a toujours l'impression de se retrouver finalement dans un film de Forman.
Oui, dans un film de Forman, et Menzel aussi. J'ai beaucoup travaillé avec des films de Menzel. Oui, à l'intérieur du roman, il y a le film entier, Les Amours d'une blonde, qui est raconté. Voilà. Alors j'espère que ceux qui aiment pas savoir la fin des films sauront sauter la dernière page, mais j'avais vraiment envie de rendre hommage à ce film. Bon, Forman est surtout connu en France pour Amadeus ou je sais pas, pour Man of the Moon, des films américains, on va dire sa période américaine, ou Valmont. Et il était temps de remettre un petit peu les films tchèques, qui sont des films absolument merveilleux. D'un charme extraordinaire et qui porte déjà en eux toutes les thématiques de Forman, et bien sûr avec les thématiques de Forman quelque chose de l'époque, mais pas que, je crois, quelque chose qui est intemporel et qui respire le tchèque pour moi. Il y a des passerelles aussi avec la culture française, parce que derrière Forman, moi, je vois aussi Jules et Jim.
Oui, il y a ce trio, hein, parce que en dehors des pêcheurs, on a quand même toujours Paul Solveig et sa quête, et qui rencontre justement cette jeune femme et un autre jeune homme aussi, donc une espèce de ce trio comme ça, très Jules et Jim, en effet.
Oui, et Mila est une passionnée de cinéma et va initier petit à petit Paul à la culture tchèque. Donc ça passe par un personnage un peu extérieur. Forcément.
C'est un rite de passage, hein, d'ailleurs.
C'est un rite de passage, oui, parce qu'ils ont créé une sorte de cercle des cinéphiles disparus, quelque chose comme ça. Oui. Et la règle pour entrer dans ce cercle, c'est d'être un spécialiste de cinéma, un amoureux du cinéma. Il ne s'agit pas d'être un ami, hein, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment être versé dans le cinéma. Donc, ils ont formé un groupe un peu caché, une équipe souterraine, comme ça. Et l'un des buts de notre personnage, Paul Solveig, c'est de rentrer dans ce cercle de cinéphiles. Et donc, il va se gaver de films et de littérature tchèque pour passer une sorte de concours, parce qu'il croit être un concours, et rentrer, passer de l'autre côté, rentrer dans le cercle des cinéphiles. Et donc, cette Mila, qui est une sorte de chef cinéphile, lui présente Antonine, un cinéaste qui est en recherche de production, on va dire, et qui vivote, qui se retrouve charpentier, et qui vivote en attendant de pouvoir créer ce qu'il a envie de faire, les films qu'il a au fond de lui. Voilà.
Alors, vous avez rédigé ce roman à la faveur de la pandémie de Covid-19. Finalement, on voit que même une pandémie peut avoir du bon pour la création en solitaire qu'est la littérature. Puisqu'on parlait de l'histoire tout à l'heure, justement, comment est-ce que vous avez travaillé sur cette histoire récente de la Tchécoslovaquie, de la normalisation des années 70? Est-ce que vous vous êtes quand même un peu plongé dans des livres d'histoire, ou finalement vous n'avez pas voulu être trop imprégné non plus de théorie?
Je suis là depuis 12 ans, en fait. Je lis beaucoup, donc je passe mon temps à lire des choses. J'avais pas besoin de faire un travail de recherche spécifique à l'avance. J'avais été frappé par un livre qui avait été fait par l'Institut de recherche des régimes totalitaires sur les photographies d'espions, en fait, de la police secrète.
De la police politique.
De la police politique. Et donc, c'était ces photos qui m'avaient marqué, notamment une photo. Donc, c'est que des photos cachées. Prise avec des petits appareils qu'on devait mettre sous le manteau, dans les landaux même. J'avais vu qu'on prenait des photos dans les landaux pour suivre des personnages visés. Et j'avais été frappé par la photo d'un homme au zoo qui regardait le photographe, une photo tout à fait bien cadrée comparée aux autres, et qui regardait le photographe, signe que c'était que l'espion était un ami en réalité. Et donc qu'il avait pu être dénoncé par ça. Et donc cette photo-là qui m'avait marqué m'avait donné l'idée qu'on pouvait faire quelque chose avec les photos, la photographie, et que ça disait énormément de choses sur le rapport entre les gens. je ne peux pas en dire beaucoup plus.
Non,
hein.
Parce que sinon, on a bien dit, faut pas tout déflorer, il faut lire le livre, ça c'est sûr. J'aimerais quand même mentionner, alors c'est vraiment pour la petite histoire, le nom de ce village de Moravie où se déroule le récit, puisque c'est un village imaginaire. Il y a un joli jeu de mots entre le mot « bled » et « lednice », enfin, disons une consonance, voilà, la fin du mot est plutôt tchèque. C'était rigolo quand même.
Oui, je me suis permis cela, oui, effectivement. Quand je suis arrivé en République tchèque, j'étais un amoureux de Prague absolu et j'avais du mal à sortir de Prague. Et puis, depuis quelques années, j'ai décidé de faire toutes les villes moyennes. Et donc, je prends le train, je prends la voiture et je passe un week-end ou quelques jours dans les villes moyennes. Et je suis tombé amoureux, justement, de toutes les villes moyennes tchèques, parfois même des petites villes. Donc c'est un peu tendrement hein, que j'appelle ça bled-nicé, parce qu'en français on utilise le terme bled pour parler d'un lieu perdu, d'une petite ville qui n'a rien, qui n'est pas très très intéressante d'ailleurs, et qui renvoie en fait à un terme plutôt arabe, je pense, puisque le bled c'est l'endroit, le village ou la petite ville vers lequel retournent les gens qui habitent en France mais qui sont originaires en Afrique du Nord. Bon, il y a aussi autre chose, c'est que moi je viens de Nice, donc en plus de Lednice, ça me permettait aussi de faire un petit clin d'œil à ma ville d'origine.
C'est vrai, voilà. C'est vrai, ça je ne l'avais pas vu. Un mot peut-être sur la maison d'édition chez qui vous publiez ce roman, c'est les éditions Incultes. Alors c'est votre deuxième roman dans cette maison, hein, dont on avait eu l'occasion de parler d'ailleurs ici il y a quelques années, en lien avec le livre d'Hélène Gaudy autour du ghetto de Térésine. Donc c'est votre deuxième roman publié chez eux. Comment est-ce qu'a été accueilli votre manuscrit? Comment est-ce que vous avez peut-être travaillé au niveau avec l'équipe éditoriale?
Le premier, je l'ai envoyé par la poste, hein, donc il est tout simplement. J'ai eu la chance d'être lu et apprécié. Le deuxième a été lu par mon éditeur, Alexandre Civico, qui voilà, l'a apprécié. Ensuite, on travaille sur le texte, comme pour le premier, donc il y a des propositions de correction. J'ai beaucoup retravaillé en réalité le début, hein, toute la partie, la partie à Paris. La partie tchèque fonctionnait très très bien, la partie parisienne fonctionnait moins bien. Alors, on a un peu taillé, on va dire, dans le gras pour vite arriver en République tchèque. Bon, c'est une maison d'édition qui est formidable, avec voilà, des gens que j'apprécie beaucoup et qui font un travail. Je crois qu'il faut absolument tout lire de cette maison d'édition. J'ai commencé à faire un grand travail de lecture, là je suis en train de prendre les textes les uns après les autres, et le texte que vous avez évoqué d'Hélène Gaudy est une merveille que je conseille absolument sur Térésine, mais pas que sur Térésine, hein, sur l'usage du mensonge en réalité. Je crois que c'est vraiment la manière dont le mensonge a été utilisé.
Difficile de faire la promotion d'un roman à l'heure actuelle, hein. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a quand même des choses de prévues autour de votre roman?
Pour La Certitude des Pierres, il y avait plein de choses de prévues, et puis bien sûr tout est tombé à l'eau, tous les festivals,
ça c'était l'an dernier.
Ouais, c'était l'an dernier. Bon là, fatalement, les librairies invitent moins les auteurs. En plus, je suis à Prague, donc c'est un peu difficile d'imaginer que je puisse prendre l'avion pour aller là-bas. Donc il y a moins de choses, hein, pour être honnête, il y a moins de propositions, mais je pense que c'est lié uniquement à la. Au Covid, la diffusion se fait à travers notamment les réseaux sociaux, les libraires, il y a beaucoup de libraires qui en font un coup de cœur, donc on est quand même bien suivi par les libraires, c'est appréciable, et ils publient des recensions, voilà, ils mettent des photographies sur Instagram ou sur Facebook.
C'est le cas d'ailleurs à l'heure actuelle à Paris, c'est ça?
Oui, oui.
Dans une librairie?
Oui, oui, effectivement, il y a une librairie, par exemple, qui a décidé de fabriquer une vitrine autour de la culture tchèque. Et donc, elle a mis tous les livres tchèques qu'elle avait, avec au milieu le mien. Donc, pour moi, c'est vraiment une grande chance et surtout une fierté d'être un modeste passeur de la culture tchèque, parce qu'il faut continuer, je crois, de faire ce travail-là de diffusion. Il y a des auteurs qui sont lus et appréciés, mais je pense que... si elle était davantage connue, je crois que les Français, on n'y perdrait pas au change.
Alors peut-être une dernière question, et là on revient un peu plus à votre roman, puisque le cinéma est très important dans ce livre, hein, le Silence des Carpes. En imaginant comme ça, de manière utopique, que ce roman soit filmé, quelle bande-son vous choisiriez? Quelle musique serait la plus appropriée?
Ah, je mettrais de la musique, de la musique traditionnelle morave, avec aussi un peu de jazz. Voilà, j'écoute plus tellement de jazz, j'écoute de la musique classique, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui chante le plus possible. Et la musique traditionnelle, morave, qui est parfaite pour ça, qui est aigre-douce, avec des chansons tristes et joyeuses à la fois.
Le silence des carpes. Le silence des carpes, c'est aux éditions Incultes. Merci Jérôme Bonnetto.
Merci.